au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Antoine Spire.
Bonsoir à tous, c'est Livre au Café des Psaumes, Livre au Café des Psaumes, où je reçois cette semaine Rivonne Crigier, rabbin m'a sorti de la synagogue Adat Shalom. Monsieur le rabbin, bonsoir. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Je pense bien sûr à La loi juive à l'aube du XXIe siècle, qui est préfacé par Charles Mopsik. Je pense bien sûr aussi à votre dernier livre, Si Dieu sait l'avenir, sommes-nous libres d'agir? C'est chez In Press. Et puis vous avez publié une traduction de la Haggadah avec des illustrations de Gérard Garouste. Gérard Garouste, qui est un formidable peintre exceptionnel. Et on peut dire que cette édition, pour beaucoup d'entre nous, a été un moment important de l'édition française. Alors on est là, monsieur le rabbin, parce qu'on va parler d'un livre qui vient de paraître aux éditions de l'Éclat et qui est la réédition d'un texte de Charles Mopsik qui s'intitule « Le sexe des âmes, aléa de la différence sexuelle dans la Kabbale ». Alors il faut dire d'abord qui est Charles Mopsik. Je n'ai pas eu la chance de le connaître. C'est une figure du renouveau des études juives de la fin des années 70. Il a complètement renouvelé l'étude de la Kabbale et de la mystique juive, et on peut dire qu'il a fondé chez Verdier la collection des 10 paroles à la fin des années 70. C'était un proche de Benny Lévy, un élève de Jean Zaclade. Il avait un doctorat de philosophie à Paris 1, avec ses recherches sur la lettre sur la sainteté. Il a publié Caïn et Abel aux origines de la violence, La Kabbale, lire au-delà de la lettre, Kabbale et kabbaliste, et puis bien sûr, ce dernier texte, qui est d'ailleurs le dernier texte qu'il a publié de son vivant, enfin, le livre n'est pas sorti de son vivant d'ailleurs, le livre est sorti après sa mort, et il s'appelle Le sexe des âmes. Il a été traducteur, éditeur, essayiste, écrivain, et au fond, il laisse près de 50 œuvres dans tous ses registres. Il a été l'un des meilleurs éclaireurs, sans doute, des arcanes de la Kabbale, et peut-être eût-il pu être le Gershom Scholem français. Qu'en pensez-vous ?
Tout d'abord, merci de me recevoir et merci de me donner l'occasion de parler de mon ami et de mon maître, Charles Mopsik, qui, comme vous l'avez dit, je l'ai bien connu, et qui, à mon sens, on ne peut pas dire de lui qu'il aurait pu être le Gershom Scholem, parce que, à mon sens, il est le plus grand penseur juif francophone que nous ayons connu. Et je mesure mes mots, évidemment, c'est un point de vue subjectif. Son érudition est absolument exceptionnelle. Son écriture éblouissante, sa profondeur vertigineuse. Il est un des grands maîtres de la Kabbale. Et après la génération de Gershom Scholem, avec Moshe Idel notamment à Jérusalem, il a compté parmi les grands chercheurs dans ce domaine. Et dans le domaine francophone, il est vraiment un grand innovateur. Il a traduit plusieurs volumes du Zohar, une grande partie des textes kabbalistiques. Son œuvre principale, en réalité, est une œuvre de traduction et d'annotation des traductions. C'est un positionnement extrêmement modeste parce que, finalement, il aurait pu consacrer sa vie à écrire des livres comme Le sexe des âmes, où il exprime des opinions, mais il a préféré être dans cette position de transmetteur, mais avec un apport critique absolument remarquable.
Rivonne Crigier, là on est en face de quelqu'un avec ce texte qui nous parle de l'être suprême comme de quelqu'un d'androgyne. C'est comme ça que ça commence le livre. Ça m'a beaucoup surpris parce que à cet être androgyne succède un couple, Adam et Ève évidemment, et en fait c'est un peu comme si cet être androgyne avait donné naissance au premier couple. Et le surgissement de la dualité avec Adam et Ève, pour lui, à l'image de Dieu, relève au fond peut-être d'une profanisation de cette idée androgyne de Dieu.
Profanisation, peut-être.
Je prends le mot, elle est chez lui. Hein.
Oui. En tout cas, il faut comprendre quelle est la démarche des kabbalistes que Charles Mopsik analyse. Il montre que les kabbalistes ont pris très au sérieux un verset clé de la Bible et de toute l'histoire de la pensée occidentale, que Dieu a créé l'homme à son image, masculin et féminin, il les a créés. Ce verset de la Genèse est très surprenant, parce que si on le prend au sérieux, ça veut dire quoi ? Que l'homme et la femme sont l'image de Dieu, donc renvoient au divin. Alors, plutôt que de parler de profanisation, ce qui est tout à fait exact néanmoins, mais les choses se passent en sens inverse. Il y a une espèce de sanctification du statut naturel de l'homme et de la femme qui est miroir d'une réalité supérieure. Et là, Charles Mopsik introduit une idée absolument éblouissante et qui, comment dirais-je, nous désarçonne, nous qui avons été formatés à la pensée occidentale et philosophique même à notre insu, c'est que le monothéisme, l'idée de la croyance en un seul Dieu, n'est pas dénué de sexuation. C'est-à-dire que c'est une bi-unité qui est pensée selon la vision kabbalistique, où le masculin et le féminin composent cette unité. Et c'est ça l'idée de l'androgynie divine, qui est déroutante pour nous, encore une fois, mais qui signifie que il y a une tension interne au sein du divin et que c'est une clé de lecture indispensable pour comprendre le monde.
Ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, tout l'essai dont nous sommes en train de parler a pour ambition d'élucider le mystère des métaphores sexuelles qui sont récurrentes dans la tradition ésotérique de la mystique juive. Et figure centrale de cette imagerie, c'est la différence sexuelle dans laquelle le masculin et le féminin jouent à ce qu'on pourrait penser être des jeux de cache-cache, de transposition, voire d'inversion, d'une audace à laquelle le canon rabbinique ne nous a guère habitués. Alors, je voudrais savoir si, au fond, il y a une dérive de la Kabbale dans ce domaine, ou si vous pensez que c'est la pensée de la Bible qui est ici en œuvre, à l'œuvre, pensée qui aurait été détournée par les modernes.
Alors, l'essentiel de l'œuvre de Charles consiste à montrer que la Kabbale n'est pas une dérivation indue de la pensée rabbinique, ni même de la pensée biblique, mais qu'elle en révèle l'intériorité. Et il en montre un nombre impressionnant de preuves. Vous dites que le canon rabbinique ne nous a pas trop habitués à ces visions sexuées. C'est vrai, parce qu'il y a une sorte de réfrénement qui opère. Mais ici et là...
Monsieur le rabbin, je voudrais savoir si ce réfrénement dont vous parlez n'est pas dû à l'image du christianisme. C'est-à-dire si, au fond, le christianisme n'a pas eu une emprise telle sur le judaïsme qu'il a fait abandonner au judaïsme quelque chose qui était de l'ordre de cette bisexuation.
Pour ma part, je suis davantage convaincu que la philosophie platonicienne joue un rôle déterminant en la matière, qu'elle a donné la vision d'un Dieu abstrait, asexué, qui, surtout en plus, sous l'influence d'Aristote, est un Dieu qui ne réagit pas, un Dieu qui n'est que actif, qui n'est pas en interaction avec l'univers. Et c'est cette pensée-là, plus que le christianisme, qui a eu aussi, il ne faut pas l'ignorer, une certaine influence, qui a créé cette situation. Mais il faut comprendre aussi une réticence fondamentale de la pensée rabbinique face à cette sexuation du divin. Parce que le monde polythéiste, le monde païen, est habité par ces forces naturelles qu'on dépeint sous les traits de la mythologie et qui rabaissent la divinité à un phénomène de nature. Donc ça, c'est le risque majeur. Et pour éviter ce type de situation, il y a eu une volonté de ne pas révéler les significations les plus intimes de la pensée rabbinique. Mais ici et là, dans le corpus rabbinique et dans le corpus talmudique, on trouve des éléments qui montrent très clairement que cette pensée existe. Je vais vous donner un exemple très important. Rabbi Akiva est connu pour avoir dit que le Cantique des Cantiques est un ouvrage qui doit faire partie de la Bible, alors que d'autres rabbins le contestaient, en disant que si tous les livres de la Bible sont saints, le Cantique des Cantiques est le saint des saints. Or, de quoi parle le Cantique des Cantiques ? D'une relation amoureuse entre un homme et une femme qui se cherchent, qui ont des difficultés à se trouver, exactement dans la description que vous faisiez tout à l'heure. Et la pensée la plus mystique, la plus profonde du judaïsme a vu dans le Cantique des Cantiques la clé de lecture de l'ensemble du corpus rabbinique.
Quand on lit Mopsic, on a l'impression que la rigidité des identités sociosexuelles a cédé la place à une vision d'une bien plus grande plasticité. Et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, parce que cette plasticité serait mieux à même de prendre en compte les données les plus variées de la réalité sociale, nous dit Mopsic. En un mot, envisager les évolutions contemporaines en ce qui concerne l'homosexualité ou la bisexualité de manière moins convenue, moins bigote, plus paradoxale, voilà finalement ce à quoi aboutit Mopsic.
Alors, bon, Mopsic a surtout été un chercheur. Il s'est très peu immiscé dans les questions contemporaines, ou alors il l'a fait vraiment un peu comme, parce qu'il se sentait...
Là, c'est très net, quand même.
Dans son bouquin, oui. Dans Le sexe des âmes, c'est très net. Mais vous avez dit qu'il a publié une cinquantaine d'ouvrages. Hein, oui. Donc, il s'est surtout concentré sur la traduction et le commentaire critique. Mais ce qu'il montre tout au long de son œuvre, c'est que la Kabbale ouvre à une pensée juive non conventionnelle. C'est une révolution, exactement comme en géométrie, on a cassé la géométrie ou on a dépassé la géométrie euclidienne pour penser à d'autres types de géométrie. Comme en mathématiques, on est sorti aussi au chiffre premier, au chiffre naturel, pour penser des chiffres irrationnels. En fait, la Kabbale est un immense réservoir qui montre que la pensée juive est beaucoup plus riche que celle qui s'est dogmatisée et qui s'est définie dans des codes ou dans une forme de théologie communément admise. Et c'est ce réservoir qui doit nous permettre, qui nous aide à appréhender des phénomènes que nous rencontrons aujourd'hui, comme celui de l'homosexualité. Et je vais en dire un mot, parce que dit Charles à ce sujet? Il dit que quand on examine les textes d'inspiration kabbalistique, on voit que la sexualité des personnes, c'est quelque chose de beaucoup plus nuancé que la pensée binaire. Chaque être humain est à la fois homme masculin et féminin. Freud lui-même le dit, mais bien avant Freud, on trouve dans la Kabbale cette nuance. Et dans la palette des situations qui se trouvent dans le genre humain, eh bien, il y a des personnalités qui ont des sexualités complexes. Et il faut pouvoir en prendre acte pour pouvoir affronter les questions de modernité. Le monde moderne découvre ça avec une certaine stupeur et étonnement et sort des clichés habituels. Mais la Kabbale avait déjà pensé cette nuance.
Alors les kabbalistes ont poussé à un degré extrême de complexité les attributs mâles et femelles de l'être humain comme de la divinité. Et il apparaît au demeurant que des vertus attribuées à l'un ou à l'une n'obéissent pas forcément à la typologie ordinaire. Ainsi, par exemple, miséricorde, quiétude, épanchement, intériorité apparaissent-ils comme masculines, des valeurs masculines, tandis que jugement, activité, réceptivité, extériorité sont-ils tenus pour féminines? Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est complètement contradictoire avec ce que tout le monde raconte sur l'homme et la femme.
Oui, alors ça aussi, c'est un des bouleversements intéressants de la Kabbale sur ces catégorisations. D'abord, une chose très importante que dit Charles, même quand on a fait ces catégories, puisque l'être humain est un composé de masculin et de féminin, ne tombons pas dans le réductionnisme qui consiste à dire le rôle de la femme est enfermé dans une essence et elle doit être passivité. Ça ne peut pas être accepté à partir du moment où on a une vision beaucoup plus complexifiée de chaque individu. Mais la grande surprise dans cette classification qui tranche par rapport aux classifications de l'Antiquité, c'est que la miséricorde est du côté masculin, alors que la sévérité et la dureté est du côté féminin. Alors il y a peut-être des auditeurs qui trouvent ça tout à fait normal, qui disent non, moi je reconnais bien la situation. Mais dans les visions stéréotypées qu'on en a, on voit plutôt la femme du côté de la tendresse. C'est un aspect particulier de la Kabbale. Et pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la féminité a été rangée du côté de la réceptivité, c'est-à-dire de ce qu'on veut recevoir, la réceptivité, c'est ce qui est exigence. Or, ce qui est bénéfique pour soi. Or, ce qui doit être, en somme, bouleversé dans ce système, c'est que chaque être humain, parce qu'il comporte les deux dimensions, doit pouvoir trouver une combinaison qui donne une signification harmonieuse entre ces deux éléments. Et c'est la combinaison du masculin et féminin, et la rencontre de l'homme et de la femme en particulier, qui recrée cet équilibre.
Alors cette combinaison, c'est absolument central, puisque finalement, on trouve des qualités masculines chez les femmes, des qualités féminines chez les hommes, et qu'au fond, finalement, une fois qu'on a fait une séparation, on se dit, oui, d'accord, mais comme il y en a une de chaque côté pour chacun d'entre nous, on peut se poser la question de savoir, comme nous sommes à la fois hommes et femmes, ce qui domine. Alors, est-ce qu'on ne revient pas à l'idée de l'énoncé biblique qui supposait l'androgynie de départ dans la création, et que nombre de kabbalistes ont envisagé au long de leurs œuvres en distinguant ce qu'il y a de masculin dans la femme et de féminin dans l'homme. Par exemple, Rabbi Joseph de Guicatila, XIIIe siècle, en Castille, va voir dans le mariage et l'accouplement comme une façon de reconstituer l'homme bisexué dans sa plénitude d'avant sa venue en ce monde, où il a été coupé en deux, en parties distinctes. Deux parties qui sont distinctes. Au fond, reconstitution de l'androgynie avec ses qualités féminines pour l'homme et qualités masculines pour la femme.
Oui, alors on a ici quelque chose, un modèle tout à fait complexe, où effectivement chaque être humain comporte les deux dimensions. Et curieusement, Charles met en évidence le fait que le même est attiré par le même, c'est-à-dire il y a une partie récessive qui est en chacun d'entre nous, entre nous, par exemple, un homme a une partie féminine récessive qui, elle, est attirée par la partie féminine chez l'autre. Donc c'est très complexe comme système, qui fait qu'en réalité, quand deux personnes se rencontrent, elles cherchent en réalité à la fois l'altérité et le côté semblable. Et c'est, chaque être humain a sa combinaison bien particulière à cet égard.
Jusqu'ici, j'avais toujours entendu les rabbins dire ce qui est essentiel, c'est la recherche de l'altérité. Et puis vous nous dites, ah non, pas du tout, ça peut être aussi la recherche du semblable. Donc en fait, d'une certaine façon, on peut dire que Mopsik complique le problème.
Oui, en fait, c'est la cabale qui complexifie les choses et qui montre qu'en réalité, l'attrait entre des personnes est une combinaison de la recherche du même et du semblable et du dissemblable. Et c'est ça qui est intéressant, et non pas une seule facette des choses. Mais pour en revenir à votre question, il faut comprendre que toute cette recherche part d'un texte rabbinique sur la création de l'homme. En fait, à première lecture, comme ça a été souvent le cas en Occident, on a compris que Adam était un être masculin, et puis qu'on a inventé la femme à partir d'une côte. Mais dans la lecture déjà talmudique, on lit autre chose, puisque le mot « côte » en hébreu biblique se dit « tsela », et que ça peut vouloir dire aussi « côté » et pas simplement « côte », qu'il y a une lecture selon laquelle le premier homme a été créé androgyne, masculin et féminin. C'est d'ailleurs le premier verset qui en parle. « L'homme créé à l'image de Dieu, masculin et féminin, il les créa. » Et dans un second temps, la partie féminine de cet être androgyne a été extraite. Donc il n'y aurait pas une antériorité du masculin sur le féminin. Masculin et féminin seraient d'emblée créés, mais le féminin est extériorisé du masculin pour créer cette polarité. Or, toute la vision kabbalistique, c'est que ce processus-là qui est décrit à propos de l'homme se passe en Dieu lui-même, puisque l'homme est image de Dieu.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la Kabbale, forgée à partir de l'enseignement à Safed de Louria, Isaac Louria, 1534-1572, va aller au plus loin de cette réflexion sur le fait qu'il n'y a pas nécessairement adéquation entre le sexe de l'âme et le sexe du corps. Ça nous permet de revenir au titre du livre, parce que le titre du livre, c'est « Le sexe des âmes ». Alors, s'il n'y a pas adéquation, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'au fond, on peut avoir un corps masculin avec une âme féminine.
Oui, et Charles Mopsik donne des sources précises kabbalistiques qui présentent cela.
L'homme est une femme comme les autres.
On peut dire ça dans un sens. Ce qu'on peut dire, en tout cas pour les kabbalistes du Moyen-Âge, c'est que c'est vécu comme un drame. Hein. C'est pas du tout vécu de manière, détendue. Et un des éléments très intéressants de l'ouvrage, très surprenant, c'est que Charles cite la personnalité de Rabbi Yosef Karo, qui, je le rappelle, est l'auteur du Shulchan Aruch, le livre de codification sur lequel la plupart des Juifs aujourd'hui encore se fondent. Or, Rabbi Yosef Karo vit un drame, c'est que sa femme est stérile, et il cherche une explication kabbalistique, et il en arrive à la conclusion époustouflante que sa femme est d'une âme masculine dans un corps de femme, et il doit trouver une solution mystique, celle de faire appel à une âme féminine qui va s'adjoindre à l'âme masculine de son épouse pour pouvoir permettre la fécondité de son couple. C'est assez époustouflant. Alors, sans rentrer dans cette vision qui nous dépasse, bien entendu, en tout cas, cela montre...
C'est la bénédiction de l'adultère.
Alors, ce n'est pas... alors, ce n'a évidemment pas été perçu comme un adultère, mais on va dire que du point de vue de la chimie des âmes, oui, c'est un travail d'équipe, en quelque sorte. Mais vous savez, selon le Talmud, la création de l'homme, on dit qu'il faut être trois pour créer un homme. L'homme, la femme et Dieu. Alors Dieu, lui aussi, est impliqué dans le processus. Et dans la composition des âmes, oui, il peut y avoir de mystérieuses conjonctions. Bien sûr, tout ça pour nous, les modernes, ça nous dépasse. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la Kabbale a déjà... Les kabbalistes ont déjà entrevu, effectivement, la dissociation du sexe et du genre, que c'est quelque chose qui existe. Alors, je ne parle pas des théories modernes qui font une espèce de militantisme et qui veulent gommer la dimension biologique. Ça va très, très loin dans les discours modernes. Mais sans aller jusque-là, ça nous oblige à avoir une vision beaucoup plus nuancée et aussi une écoute et une compréhension beaucoup plus fine de ce qu'est la complexité de l'âme humaine et de pouvoir entendre notamment les phénomènes de l'homosexualité qui se présente.
Réon Crigier, est-ce que vous ne croyez pas que là, on touche quelque chose qui est de l'ordre de l'anarchisme de la Kabbale? Un petit peu comme si il y avait une, au fond, je dirais plutôt libertaire d'ailleurs, une inventivité libertaire dans la Kabbale.
Alors, libertaire, je ne sais pas si j'utiliserai ce mot, parce que tous les kabbalistes, la plupart, étaient des hommes éminemment impliqués dans la normativité juive. Je citais tout à l'heure Yosef Karo, c'était un très grand kabbaliste. Il est l'auteur de la codification principale. Ils restent tous habités par l'idée qu'à travers la discipline des commandements, l'homme s'assume. Mais ils ont une formidable liberté de pensée qui, effectivement, ouvre des perspectives qui font éclater le cadre purement conventionnel de l'halakha, non pas pour créer une anarchie, mais une créativité, un dynamisme possible de cette halakha. C'est-à-dire, à partir de l'exigence et de la discipline des mitzvot, de voir comment, en certaines situations, des singularités peuvent être prises en compte. Et ça, c'est d'une modernité inouïe. On ne peut que déplorer le fait que la Kabbale, avec tout son gisement profond, soit insuffisamment prise en compte. Et c'est ce que Charles essaye de rétablir à travers son ouvrage.
Alors, il y a un commentaire assez étonnant de la phrase Genèse 2, 24. Ils seront une seule chair. Alors, Mopsik fait un chapitre avec cette phrase, rendant compte de quelques interprétations des mystiques juifs médiévaux. Et il montre qu'il y a une approche de plus en plus spiritualiste. Même si ce verset légitime des relations conjugales, la domination de l'homme sur la femme, d'une certaine façon, parce qu'une seule chair, mais finalement, c'est l'homme qui donne le signal de la manière dont cette chair va évoluer, elle doit se tenir face à lui, sans cesse auprès de lui, et seul un couple humain est vraiment stable et véritablement uni. Donc là, il y a une, comment dire, on a l'impression qu'avec ce verset, il y a une manière de justifier la légitimation rabbinique postérieure.
Alors, vous touchez là au thème central de tout l'ouvrage, peut-être le fil d'Ariane qui le traverse, parce qu'il montre effectivement que cette union du masculin et du féminin a été pensée dans le cadre médiéval. Finalement, dans le cadre patriarcal qui a dominé toute la civilisation occidentale jusqu'à nos jours, tout cela a été pensé dans la domination du masculin sur le féminin. Mais ce qui est prodigieux dans cet ouvrage, dans les différentes sources qu'il montre, en raison de l'androgynie primordiale, du fait que masculin et féminin composent ensemble l'unité du genre humain, mais aussi de l'expression divine, il montre qu'en réalité, dans la vision d'avenir des kabbalistes, ils pensent que la réparation des déséquilibres va conduire à une égalité du masculin et du féminin. C'est très clair dans le Sefer Maharet HaElohut, qui est un texte du XIIIe siècle que Charles cite abondamment, où il raconte que dans les temps à venir, le féminin recouvrera la même voilure, si je veux dire, la même prestance que le masculin. Donc les kabbalistes ont pensé le rééquilibrage du masculin et féminin, mais dans une dynamique, encore une fois, dans une perspective d'avenir. Dans leur temps, ils considéraient que la hiérarchisation était une sorte de moment nécessaire. Donc ils sont encore dans leur temps, mais ils ont cette vision d'avenir qui va vers l'égalité des genres.
Alors écoutez, rééquilibrage du rapport homme-femme, redécouverte de ce que l'homosexualité n'est pas hétérodoxe, de ce que l'homosexualité est naturelle. Il écrit le mot, naturel. On a là un espèce de bouleversement absolument extraordinaire des réflexions sur la sexualité, et on se pose la question de savoir comment tout cela n'a rien produit dans la modernité d'aujourd'hui.
Alors, n'a rien produit, ça...
Non, je veux dire de la modernité juive d'aujourd'hui. Quand j'écoute les rabbins, quand je vais à la synagogue, franchement, la trace de ces idées kabbalistiques me paraît pour le moins ténue.
Alors, vous décrivez essentiellement le monde orthodoxe.
Pas du tout, je suis dans le libéral, totalement libéral. J'écoute le monde libéral. Oui, on dit que l'homosexualité, d'accord, c'est pas mal, c'est pas scandaleux, mais on n'en dit pas plus. Je veux dire, il n'y a pas cette espèce de relégitimation, si vous voulez.
Alors, je pense que là, à ce sujet, vous faites erreur. Il y a toute une littérature aujourd'hui dans le monde moderne qui va des orthodoxes modernes jusqu'aux plus libéraux, sur l'homosexualité, sur l'égalité masculin-féminin, y compris à partir des sources rabbiniques et halachiques de la loi. Mais comprenez bien que l'ambition de Charles n'était pas de traduire ça en courant politique ou en courant religieux. Lui-même, il était de pratique traditionnelle. Et ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait un laboratoire de la pensée qui puisse éventuellement aboutir à ce genre de choses. Mais il n'était pas un militant politique pour un mouvement ou pour un autre. Il se tient en amont. Il dit qu'on a ici des richesses inouïes et qu'effectivement, ça doit nous aider à penser plus dans la nuance et à envisager des développements, y compris dans le domaine de la halakha.
Si vous voulez, tout se passe, quand on lit Charles Mopsik, comme si ce n'était pas le corps ou même l'âme qui était porteuse d'un sexe ou de l'autre, mais que c'était le féminin et le masculin en tant que principe ou quantité préexistante qui étaient les substrats du corps et de l'âme. Un peu comme si on était dans une situation où ceux-ci, masculin et féminin, viennent incarner un sexe et non le constituer.
Oui, c'est un des apports importants. Ces catégories de masculin et féminin sont absolument premières et fondamentales. Et d'ailleurs, il faut rectifier aussi la vision masculin actif, féminin passif. Une des choses qu'explique Charles, c'est que le féminin, ce n'est pas la passivité, c'est la réceptivité. Or, une réceptivité peut être extrêmement active. Et il se trouve que dans le monde des sphirotes, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais la sphira féminine, qui est Malhout, est en réalité la plus active d'entre toutes. C'est celle qui est en rapport avec notre monde. Donc ça casse aussi là un stéréotype très important.
En fait, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce qu'indique Charles Mopsik, c'est qu'aux yeux des kabbalistes, les apparences extérieures ne sont jamais les traductions fidèles de la réalité. Et c'est cette dernière, cette réalité, qui recèle la clé des relations humaines et des identités.
Voilà, c'est une des grandes leçons, une grande leçon morale de ce texte, de ce que nous apporte la kabbale. Cessons de porter des jugements à l'emporte-pièce au premier regard. Il faut absolument approfondir les textes. Toute la sagesse n'a de sens que si elle entre dans la nuance, si on sort des systèmes binaires. Le piège des religions, c'est qu'elles tombent dans des discours binaires. La kabbale est un discours qui casse la vision manichéiste et binaire du monde.
Alors, monsieur le rabbin, je vous remercie. Vous, Rivonne Crigier, vous avez, au fond, vous vous inscrivez dans la suite des réflexions de Charles Mopsik.
J'oserais le croire, parce que, très modestement, j'ai eu la chance, l'immense joie et le bonheur d'avoir connu un grand maître comme lui.
Alors donc, ce livre s'appelle « Le sexe des âmes, aléa de la différence sexuelle dans la Kabbale ». Il est publié en poche, parce qu'en fait, il avait été publié en première édition en 2004, toujours par les éditions de l'Éclat, et il est publié en poche par les éditions de l'Éclat. La semaine prochaine, c'est Marie-Christine Vienner qui recevra Daniel Cohen-Lévinas pour « L'impardonnable ». Merci, monsieur le rabbin.
Merci à vous.